Bienvenue sur Fréquence Mistral pour ce cinquième numéro de Locaux du Bio, notre rendez-vous mensuel en partenariat avec Biocoop Le Grenier. Chaque mois, nous y recevons des acteurs locaux qui font bouger le territoire. Alors ce mois-ci, Camille Danel, chargée de communication à Biocoop Le Grenier, est toujours à nos côtés. Bonjour Camille.
Bonjour Ingrid.
Et ce mois-ci, Camille, tu es venue accompagnée, comme chaque mois, d'un invité. Alors il s'agit de Nicolas Garcin, cofondateur de la brasserie artisanale de Serre-Ponçon, aussi connue sous le nom de BASP. Bonjour Nicolas.
Bonjour Ingrid.
Alors nous allons aborder, bien sûr, qu'est-ce qu'est une brasserie artisanale, mais aussi les procédés de fabrication de cette boisson. Nous allons essayer de comprendre aussi le partenariat qu'a monté Biocoop avec la BASP pour la Biocoopine. Et puis pour finir, comme chaque mois, Camille va nous parler de sa recette du mois. Alors pour commencer, Nicolas, je vais te laisser te présenter un peu.
Du coup, Nicolas Garcin, on a créé la brasserie de Serre-Ponçon en 2016, à la suite déjà d'une expérience où j'avais fait ma propre bière dans mon bar-restaurant dans le Kera. Voilà, ça plaisait beaucoup et du coup le projet de brasserie est né de là. Ben après, on a été un peu victime de notre succès puisqu'on a toujours cru après la bière plus qu'après le client. Et après, ben, c'était l'outil de production et tout l'enchaînement d'une entreprise classique. Voilà, et la belle aventure qui dure depuis 8 ans.
Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. On va revenir sur un peu votre cœur d'activité qui est la fabrication de bière. Pour les gens qui ne savent pas comment est fabriquée la bière, est-ce que tu peux juste nous rappeler le procédé ?
Procédé de fabrication de la bière, du coup, c'est la transformation du malt en mou de bière qui va permettre de faire de la bière derrière. Donc en fait, c'est l'extraction du sucre de la céréale pour le transformer en alcool derrière et avoir un jus alcoolisé à partir de malt, donc de malt de céréales, essentiellement d'orge. Mais après, on verra plus tard qu'il y a tout type de céréales qui sont maltables, comme le blé, le petit épeautre, le seigle, voilà.
On va revenir tout de suite sur la BASP dont on parlait avant. Comment est-ce qu'est venue cette idée de créer une brasserie artisanale à Chorges ?
Ben, l'idée, c'est simple, c'est vraiment une rencontre, du coup, avec David, qui du coup a fait tous les visuels, les dessins. Et en fait, on a décidé de créer la brasserie, une rencontre. On est ex-beau-frère, voilà, c'est une histoire de famille à la base. Et après, derrière, il y a une entreprise. Voilà.
Et pourquoi le choix de s'être implanté à Chorges ?
Le choix de Chorges, parce qu'en fait, on a eu la possibilité déjà d'une, on voulait une bière du coup locale avec de la bonne eau. Donc Chorges, Roche des Écrins, dont eau très bonne, surveillée et de qualité et en quantité. Et ce qui est l'essentiel de la bière, c'est quand même l'eau, la base. Et après, derrière, eh ben, du coup, la rencontre, le rapprochement, la possibilité de s'installer à Chorges dans un garage, parce que trouver des locaux en 2016, c'était compliqué pour trouver des locaux pour s'installer à des prix raisonnables. Et en fait, c'est un enchaînement de choses qui fait que, voilà, on a commencé dans notre garage, dans le hameau des Bernards à Chorges.
Et est-ce que, justement, on part de cette genèse dans un garage, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce qu'il y a eu un bel essor depuis ? Comment ce projet il a évolué depuis 2016 jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui ?
Ben, du garage au Bernard, du coup, on est passé 2 ans et demi plus tard dans un entrepôt dans la zone de la Grande Île, qui était trop petit, et 2 ans plus tard, donc en septembre 2020, on a déménagé du coup dans nos bâtiments actuels, et du coup, on a fait notre lieu qui est l'Apex Brewpub aussi, donc c'est toute une évolution. Bon, là, maintenant, on est sur place, on est chez nous, donc je pense pas qu'on redéménage de sitôt, mais... On a déjà une belle aventure à développer à l'endroit où on est.
Et justement, tu parlais de l'Apex, où maintenant il y a aussi toute une programmation de concerts un peu toute l'année. Ce sont deux entités différentes, la brasserie et l'Apex, juridiquement parlant.
Juridiquement parlant, c'est deux sociétés différentes, il ne faut pas confondre. Par contre, l'Apex est notre plus gros client. Et de ce fait, toutes nos bières sont distribuées à l'Apex. Et... En fait, c'est un peu notre vitrine, on va dire. C'est notre magasin d'usine. Et de là, derrière, est né le côté bar à concert, programmation, qui du coup commence à être pas mal connu sur le département, ou en tout cas dans le sud du département.
Et j'imagine que c'est aussi un moyen de créer du lien justement avec les habitants du territoire aussi.
Ah bah c'est un moyen de créer du lien parce qu'on remarque que finalement même à Chorges, eh bah y a des gens qui débarquent encore et qui ne savaient pas qu'il y avait une brasserie à Chorges. Donc...
Puisque vous avez aussi diversifié les activités, tu parlais de l'Apex, mais il y a aussi aujourd'hui des visites de la brasserie par exemple.
Des visites de la brasserie où on a encore un gros travail du coup cette année dessus, puisqu'on vient d'être un peu fléché par la région pour développer le côté visite d'entreprise. Donc ça, il y a des nouveautés qui vont arriver certainement dans les années à venir. Mais vraiment, l'idée, c'est de transmettre au maximum ce qu'est la bière artisanale, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait. Et moi, ce qui me fait vivre, en fait, c'est plus même la filière, le développement des matières premières en local. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours un dicton qui dit que c'est bien beau de faire de la bière locale, mais s'il n'y a que l'eau qui est locale, en fait, c'est pas... Donc certes, on n'a pas les rendements qu'il y a ailleurs en France, mais on est capable de faire de l'orge brassicole dans les Hautes-Alpes.
Justement, tu disais par rapport aux ingrédients, donc le malt, ici on est quand même un département où il y a quand même une petite culture céréalière, même si elle est faible comparée à d'autres régions. Donc on peut faire des bières avec du malt local. Et qu'en est-il du houblon ? Parce que c'est pas trop une plante qui s'adapte aux Alpes, mais j'ai cru que vous avez réussi à trouver des agriculteurs pour en planter.
Oui, le houblon, du coup, c'est une plante, on va dire, atypique, qui pousse partout. On a prouvé qu'elle pouvait pousser à Chorges, puisqu'on avait fait une petite houblonnière à Chorges. Voilà, après, le projet a été un peu mis en suspens, mais après, on a travaillé, parce que moi, je suis aussi, du coup, président de l'association Bière de Provence, qui réunit tous les brasseurs en Provence, enfin, même en région PACA. Du coup, ça réunit tous les brasseurs de la région PACA. Et de cette union, en fait, on a fait aussi tout un projet houblon, sur l'adaptation du houblon en culture méditerranéenne et alpine. Et du coup, de là est né plusieurs projets de houblonnières, dont deux du coup, sur Fort Calquier, un à Cabrières-d'Aigues dans le Luberon Sud. Et de là aussi, du coup, on a réuni un peu toute la filière française et on a découvert que finalement, il y en a pas mal qui plantent aussi vraiment à la frontière des Hautes-Alpes dans la Drôme. Il y a 4 hectares de houblon qui sont plantés à Boulc. C'est vraiment à la frontière derrière le col de Sacroote. Voilà, et au maximum, on essaie de travailler avec ces houblons-là. Nous, il faut savoir qu'à 85% nos houblons sont français. Donc on va dire, allez, peut-être 20% PACA, 65% le reste, c'est du nord ou de l'Alsace. Voilà, et après, on va avoir 15% de houblons néo-zélandais chez nous, puisqu'on trouve des goûts qu'on trouvera nulle part ailleurs, puisqu'il faut de l'humidité, il faut de la chaleur qu'on n'a pas chez nous.
Parce que chaque type de houblon va justement influer sur le type de bière qui va être proposé ensuite.
Non, le houblon va influer sur le goût, sur l'IPA, sur vraiment le goût qu'on va donner à la bière, donc la sensibilité agrumes, tout ça. Ça, c'est des houblons qu'on aura du mal à faire pousser chez nous, parce qu'il faut énormément de chaleur. Mais par exemple, aujourd'hui, un houblon qu'on prend aujourd'hui, le houblon qui est très connu et qui se plante partout, c'est le Cascade. Ce houblon, il y a peut-être aujourd'hui, on dit que c'est du Cascade, mais il y a peut-être 600 sortes de Cascades différentes, puisqu'on le plante en Méditerranée, qu'on le plante dans les Hautes-Alpes, qu'on le plante en Nouvelle-Zélande, qu'on le plante aux États-Unis. Il n'aura jamais le même goût, puisqu'en fait, le houblon s'adapte au terroir dans lequel il est planté. Et voilà, donc en fait, on peut même parler de bière de terroir. Quand on avait lancé la bière de Chorges avec les houblons de Chorges, eh bien, on parlait de bière vraiment de Chorges et de terroir qui pouvaient varier d'année en année, puisqu'en fait, selon l'année qu'il a subi, la vigne, on n'aura pas le même vin. Donc le houblon, c'est pareil. Aujourd'hui, le consommateur a du mal à accepter qu'une bière soit différente, mais en fait, les industriels, eux, travaillent à faire la même bière en fonction des différences. Alors que nous, ce qu'on veut retranscrire dans la bière qu'on a en fonction des matières premières qu'on a. En fait, on ne veut pas calculer comment va être notre bière et faire tout le temps la même. C'est pas intéressant. Et
on va revenir sur le côté brasserie artisanale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que sont les caractéristiques d'une brasserie artisanale ?
Ça peut partir dans plein de sens, mais la brasserie artisanale, pour moi, c'est déjà d'une prendre l'eau du territoire où on est et ne pas la modifier. Nous, en fait, on a une gamme de bières qui est avec beaucoup de sucre résiduel, qui reste quand même, c'est pas des bières très sèches. Et ça, c'est dû au fait de l'eau qui est un peu plus basique que neutre. En fait, normalement, la bière, on travaille en milieu acide. Donc, on mélange les céréales et l'eau. On a un moût de bière qui est environ à 5,6 chez nous, alors que normalement, on devrait être à 5,2. Et du coup, les levures ne travaillent pas pareil. Donc, en fait, au lieu d'avoir une bière à 4,2 à la sortie, on a des bières à 4,5, 4,6 de pH. Et donc, les levures ne travaillent pas dans des conditions optimum. Et du coup, en fait, elles font ce qu'elles peuvent faire. Elles ne travaillent pas à l'optimum qu'elles pourraient travailler. Donc, on a des bières quand même qui restent très sucrées en bouche. Si on voudrait... Maintenant, avec les nouvelles bières qu'on fait, on s'amuse des fois à acidifier le mou, du coup, pour travailler dans de bonnes conditions. Et du coup, on se retrouve avec des bières plus sèches. Mais notre gamme de base, c'est une gamme qui est née comme ça, et je vois pas pourquoi on la changerait, puisqu'elle plaît beaucoup au public. Donc, voilà.
Tu parlais de l'eau, notamment. On est dans un département où parfois l'eau commence à manquer à certains endroits. Comment est-ce que tu concilies un usage durable de ces ressources en eau avec le fait d'avoir un rendement qui puisse aussi vous assurer un fonctionnement sur la durée ?
Nous, en fait, pour l'eau, bon, c'était déjà un choix dès le départ, mais en tout cas, on s'est installé à Chorges, où on est sur la source des Moulettes, qui est la source de l'eau de la Roche des Écrins. Et cette eau, c'est la plus grosse source du département. À une époque, l'eau coulait à 600 litres seconde. Aujourd'hui, la source des Moulettes doit couler trois fois moins, à 200 litres. Donc certes, ça réduit. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous imaginez, en une seconde, un baril de 200 litres sortir de la source. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus d'eau, mais je pense qu'il y en a d'autres qui auront plus de soucis à se faire que nous avant nous, on va dire. Dans les Hautes-Alpes, on est quand même protégé par ça.
Et je me demandais également, est-ce que sur le département des Hautes-Alpes, ou plus généralement sur la région, il y avait une culture de la bière qui existait historiquement ?
Eh bien, on a un peu retrouvé, apparemment, il y avait anciennement une brasserie à Barcelonnette. Après, moi, j'ai jamais vraiment trop cherché, mais de brasserie dans les Hautes-Alpes, j'ai pas trouvé.
Après, historiquement, les brasseries, c'est plus une culture du nord de France, de l'Alsace et de la Belgique, parce qu'il n'y a pas de vin. Les Hautes-Alpes, nous, au grenier, en tout cas, on voit qu'il y a vraiment une tendance, un essor de la bière depuis plusieurs années, depuis 2015-2016, que vraiment les consommateurs se tournent vers des bières de terroir, des bières qui sont plus charpentées, qui ont plus de goût que les bières classiques qu'on trouve en supermarché. Donc, c'est ça, je pense, aussi qui pousse les gens à monter leur brasserie. Il y a eu plein de petites brasseries qui sont montées dans les Hautes-Alpes, notamment la Basp, c'est un des meilleurs exemples, alors qu'on n'a pas une culture de bière très importante.
Il y a exactement 29 brasseries artisanales dans les Hautes-Alpes. Je défie tout le monde de les citer parce que personne ne les connaît, mais il y en a énormément. Après, derrière, on n'est pas beaucoup à pouvoir répondre en quantité et surtout à l'envie du public. Parce qu'après, derrière, il faut, comme je disais au début, il faut un outil de production. Et les outils de production, c'est des investissements. Après, c'est des choix à faire. Nous, on a fait ce choix en 2020 de se développer. Mais après, on ne perd pas notre âme de brasseur artisanal. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en faisant plus de quantité de nos bières classiques, eh bien, on arrive à s'amuser derrière en faisant des nouvelles bières. Mais après, c'est des bières qui sont authentiques et aussi plus chères à produire parce qu'on met plus de matières premières. Voilà.
Donc je parlais tout à l'heure de qu'est-ce qui définit les caractéristiques d'une brasserie artisanale. L'expérimentation peut en faire partie. Donc.
L'expérimentation en fait partie et c'est souvent même le problème de beaucoup de brasseurs et de collègues que je connais autour de moi. C'est qu'ils veulent trop expérimenter et il faut quand même un fonds de roulement dans une entreprise qui nous permet de vivre, qui nous permet de rembourser nos emprunts. Et quand on veut trop expérimenter, eh ben, on perd un peu le côté business de l'entreprise, quoi, qui est compliqué.
Et on parlait juste avant de l'essor des brasseries artisanales. Tu parlais de 29 brasseries dans le département des Hautes-Alpes. Est-ce que c'est quelque chose donc qui se vérifie sur l'ensemble du territoire? Il y a un vrai engouement pour les brasseries artisanales aujourd'hui?
Il y a un engouement énorme hein, quand on voit qu'apparemment, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait une brasserie qui se crée à Barcelonnette. Il y a encore des nouveaux qui n'ont pas peur et qui viennent se créer. On a un brewpub qui vient d'ouvrir à Gap, l'Antidote. Mais c'est des projets qui sont super. Et je pense qu'il faut les encourager et il faut vivre avec. Et encore de la place peut-être pour d'autres. Il y a quelqu'un qui s'est créé, c'est un Belge qui est venu habiter à Embrun. Il a créé la Ch'tite Brasserie, une toute petite brasserie, il fait tout en canette. Et il est là depuis 2 ans, je crois, ou un an où il commence à vendre de la bière. Mais voilà. Donc à Embrun, par exemple, il y a 2 brasseries. Déjà, il y en a de plus en plus.
Je ne savais pas. Vous êtes labellisé bio avec vos bières à la Basp. Pourquoi avoir fait ce choix du bio?
Le choix du bio, c'était parce qu'en fait, déjà, la bière de base, ce n'est pas un produit du tout écologique. C'est un produit où on chauffe, on refroidit, on dépense énormément d'énergie. On parlera plus tard de la malterie c'est encore pire. Ben, il faut beaucoup d'énergie pour la produire, et ben, si on peut mettre des matières premières qui sont propres, et ben, c'est quand même plus intéressant. Et aujourd'hui, le label bio, c'est le seul qui est contrôlé, qui permet de garantir et ben, la provenance des produits et la qualité. Même si l'orge, c'est quand même une céréale qui est très peu traitée, parce qu'en fait, c'est une des céréales les moins énergivores en eau et qui pousse le plus facilement en bio, en tout cas.
Et justement, pour cette labellisation aujourd'hui, vous avez passé des audits, il y a des gens qui sont venus un peu contrôler vos procédés de fabrication, vos produits, vos approvisionnements.
Comme je dis toujours, le bio, c'est pire qu'un contrôle fiscal parce qu'ils épluchent nos comptes dans tous les sens. Et c'est pour ça que c'est un label auprès duquel les clients croient, parce qu'en fait, il est contrôlé. Tous les ans, en fait, déjà d'une, on paye. Et de deux, tous les ans, on est contrôlé. On a un contrôle programmé qui dure toute une journée et on a un contrôle inopiné qui dure une demi-journée chaque année. Voilà. Donc en général, nous, on a notre renouvellement de contrôle à la fin de l'automne. On n'a rien qui traîne de pas bio, donc en fait, c'est assez simple de nous contrôler quand même.
Eh bien, on va faire, avec cette petite aparté sur le bio, on va faire la transition avec la biocopine. On va en parler juste après notre première pause musicale. Alors pour cette première pause musicale, direction les États-Unis, nous allons remonter le temps jusqu'en 1994. L'artiste Beck sort son 3e album qui s'appelle Mellow Gold. Sur cet album figure un titre intitulé Beer Can. On l'écoute tout de suite.
Singing like this. Why don't throw in frisbees at the sun? Put my soul between the bone. Now I'm running, now I'm drunk. Now I'm running like a flaming pig.
Oh yeah.
Scraping off the attitude. Oh,
just shake your boots and let it all get loose.
Alors vous venez d'écouter Beck et son titre Birkan, sorti en 1994. Nous sommes de retour en plateau avec Camille Danel, chargée de communication à Biocoop Le Grenier, et Nicolas Garcin, cofondateur de la brasserie artisanale de Serre-Ponçon. Alors, on va parler un petit peu de la collaboration que vous avez faite entre Biocoop et la brasserie de Serre-Ponçon, donc pour l'élaboration d'une bière appelée la Biocoopine, qui est commercialisée au Grenier. Alors, comment s'est monté ce partenariat ?
Alors, on se réunit régulièrement avec les Biocoop des Alpes du Sud, donc les Biocoop du 05 et du 04. Et on voulait monter un projet commun autour d'un producteur local. Et venu la bière, parce que c'était quelque chose qui nous rassemblait tous. Et on a proposé du coup à la brasserie de Serre-Ponçon de produire notre propre bière, donc la Biocoopine. Une bière qui serait commercialisée seulement dans nos magasins et dont on pourrait choisir... un peu les ingrédients. Donc c'est comme ça qu'on a commencé avec une première bière, donc c'était une bière légère, une lager, avec une petite marmotte sur l'étiquette. Et ensuite, vu que ça a été un succès fort en magasin, surtout dans les magasins du 05, vu que la Biocoopine, elle était pas mal connue par les clients, par le bouche à oreille, notamment parce que c'est produit par la BASP, il y a un vrai engouement là-dessus. Donc on a décidé de continuer la gamme et maintenant elle est distribuée surtout dans les magasins Biocoop du 05. Donc à Briançon, à Embrun, dans le Champsaur, chez nous au Grenier et également à Barcelonnette. Et maintenant, il y a une gamme de trois bières. Donc, il y a toujours la blonde, la lager, la plus légère. Ensuite, il y a une blonde qui est aux pousses de mélèze, ainsi qu'une blanche dont le malt, c'est du petit épeautre local.
Et ce choix des ingrédients, justement, que tu disais, nous avons fait le choix des ingrédients, vous l'avez fait en concertation. Et pourquoi ces ingrédients-là ?
C'est un choix qui a été fait en concertation et surtout avec les possibilités qu'on a sur notre territoire. Donc le choix est assez rapidement fait. Après nous, on a fait des propositions, on goûte, on évolue. La première Biocoopine qu'on avait fait, c'était une Kvek au Genièvre. Voilà, parce qu'on a beaucoup de Genièvre sur le territoire. Après, ça, c'est une bière qu'on refera peut-être. Hein. Mais bon, après, maintenant, on a créé trois nouvelles bières. Donc, comme elle disait Camille, la Hoppy Lager, la Blanche et la Blonde aux Jeunes Pousses de Mélèze. Donc voilà. Après, il y a un partenariat encore, du coup, en plus de Biocoop Le Grenier et la Brasserie de Serre-Ponçon, les Jeunes Pousses de Mélèze sont cueillies par Pauline Roux, qui est cueilleuse dans le Kéra. Voilà. Donc, Pauline Roux travaille aussi étroitement avec le Plantivore. On fait aussi une bière à l'épine vinette avec le Plantivore. On fait donc la bière au Genépi avec Guillaumette. La bière blanche, la biocopine blanche, du coup, une bière au petit épeautre. Donc, en fait, tout va avec l'IGP petit épeautre. Et aussi la coopérative Durancia, qui, du coup, stocke et collecte ce petit épeautre. Donc là, le petit épeautre, en fait, on l'a en grain cru et on le floconne pour pouvoir l'intégrer dans la bière. On ne va pas le malter, puisqu'en fait, pour le malter, il faudrait des lots de 10 tonnes et c'est beaucoup trop de risques pour pouvoir le passer rapidement. Mais par contre, en flocon, ça marche très bien aussi. Voilà.
Donc il y a une véritable volonté de mise en réseau avec tout un maillage de producteurs locaux.
C'est ça, tout à fait.
Et alors à Biocoop, pourquoi est-ce que vous avez souhaité aller plus loin que la simple distribution d'un produit, mais d'aller complètement dans la fabrication de quelque chose de nouveau ?
Mais comme l'a dit Nicolas, il y avait vraiment cette volonté d'avoir, on a pas mal de bières locales dans nos magasins, mais l'intérêt c'est d'avoir une bière qui est le plus locale possible, avec le plus d'ingrédients locaux. C'était ça qui nous branchait beaucoup. Et également d'avoir une bière qui représente un peu nos magasins, donc le côté convivial, festif, également le côté qualité des produits, valorisation de l'entrepreneuriat local aussi avec la BASP. C'était vraiment toutes ces valeurs qui nous rassemblaient. La coopération aussi avec l'ensemble des Biocoop. Et on voulait aussi avoir une bière qui est accessible. Et c'est vrai que vu qu'elle est quand même produite en quantité et que nous, chaque Biocoop fait un petit effort sur ses marges sur ce produit-là, eh bien elle est vendue à un prix qui est accessible et qui permet aux gens qui le souhaitent de consommer une bière artisanale qui reste à un petit prix.
Donc aussi dans une volonté de pouvoir rendre accessibles au plus grand nombre les produits locaux.
Exactement, avec modération toujours.
Bien sûr, on ne l'a pas encore dit, mais toujours avec modération. Donc ce partenariat, vous le valorisez notamment lors d'un événement qui a lieu en ce moment, c'est la fête de la bière. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ?
Oui, donc la fête de la bière au Grenier et dans les autres magasins Biocoop du coin. Ça a lieu jusqu'au 1er juillet. Nous, au Grenier, on a fait le choix de mettre en valeur le maximum nos brasseries locales. Donc, on va avoir la mise en valeur de bières de 6 brasseries locales, donc qui viennent des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, d'Isère et de la Drôme. Donc, vous allez retrouver les bières de la Walpine, de la Bivouac, de la brasserie des Gaillards, de la brasserie de la Durance, bien sûr de la Basse, et aussi la brasserie paysanne de Sainte-Luce. Le but, c'est de mettre en valeur leurs bières et aussi de mettre en valeur d'autres brasseries artisanales, de France.
Et justement, est-ce que tu sais si des partenariats tels que celui que vous avez monté à la BASP existent aussi avec les autres biocoops du territoire ? Est-ce qu'elles collaborent aussi avec des producteurs locaux ?
Oui, il y a des initiatives locales aussi. Je sais par exemple dans les Bouches-du-Rhône, il y a une bière locale dont il y a une partie des bénéfices qui est reversée à des associations qui nettoient la mer Méditerranée.
Et alors, du côté de la brasserie de Serre-Ponçois, est-ce que vous êtes en lien avec d'autres brasseurs ? Est-ce que vous collaborez avec d'autres brasseries sur certains produits ? Ou même, est-ce que vous auriez une volonté de le faire à l'avenir ?
On va dire qu'on a une volonté de le faire à l'avenir un peu plus. Là, du coup, pour la fête de la bière, on sort une Neipa à la purée d'abricot en partenariat et en collab avec la brasserie Brasse Bastel à Volx. Voilà, ça c'est tout nouveau, puisque du coup, c'est pas encore dans les magasins, personne ne le sait. Et qui va s'appeler du coup la Grand Rhinolof. Puisqu'en fait, Brasse Bastel est une brasserie où tous les noms de bière tournent autour des chauves-souris. Puisque le brasseur de Brasse Bastel est un grand fan de chauves-souris, et d'ailleurs c'était son métier avant. Et du coup, la Grand Rhinolof, du coup, c'est une variété de chauves-souris qui est présente dans la vieille station d'épuration de Chorges, qui a été rachetée par l'association qui défend les chauves-souris. Voilà, pour pas exterminer la race de chauve-souris, la Grand Rhinolof. Donc voilà pourquoi la bière s'appellera comme ça.
Et la purée d'abricots, justement, n'est pas forcément un département qui produit beaucoup d'abricots ?
On n'est pas un département qui produit beaucoup d'abricots, mais après, avec la caractéristique de bière qu'on voulait, c'est la Neipa, et c'était le fruit qui était un des fruits les plus adaptés, on va dire. Voilà. Donc, mais après, on produit aussi des abricots dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Et donc, on parle projet. Donc, tu as un autre projet qui est celui d'une malterie locale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce projet et déjà peut-être nous rappeler même ce qu'est une malterie ?
Du coup, la malterie locale, du coup, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 6 ans. Donc, j'en suis très, très content et très fier parce que du coup, c'est en train de se concrétiser, on va dire. Donc là, c'est vraiment un projet global, coopératif. En fait, c'est né du coup de l'association Bière de Provence, donc je suis président. Donc on a fait un projet Orge Malt Bière qui s'appelait, avec la coopération agricole, c'était un programme leader. Où déjà on a réétudié en une fois de plus, puisque le travail on l'a déjà fait plusieurs fois, mais du coup la culture de l'orge brassicole en région PACA. Donc, parce qu'en région PACA, quand on part de la Camargue et qu'on arrive au fin fond des Hautes-Alpes, les types de cultures ne sont pas du tout les mêmes. Les variétés d'orge ne seront pas les mêmes. L'arrosage ne sera pas le même. Il y a vraiment énormément de facteurs qui font que... Mais par contre, on sait qu'on est capable de produire de l'orge brassicole, sous certaines conditions. L'orge brassicole est une céréale qui vient s'intercaler dans les cultures, dans les rotations de champs, donc en fait qui s'adapte totalement aux cultures en bio, puisqu'on va faire une orge, après en fait, généralement l'orge arrive en dernier, puisqu'on ne veut pas beaucoup de protéines, du coup on cherche des terres pauvres, donc qui ont été, on va dire, la richesse de la terre a été prise avant par d'autres cultures, souvent du blé. Souvent la rotation classique c'est luzerne pendant quelques années, un ou deux blés, et après derrière on va faire de l'orge. Voilà. Et après on revient sur une autre céréale, ou sur un pois chiche, ou sur une légumineuse. Voilà. Et du coup, ce projet, en fait, du coup, une fois qu'on a la céréale, donc il faut le malter. Et aujourd'hui, il y a aucune malterie en région sud. Donc le
Tupaca, tu veux dire.
Tupaca, ouais. Voilà. Donc il y a un essor des malteries artisanales qui est en train de revenir ces dernières années. Donc il y en a 4, par exemple, en Rhône-Alpes. Il y en a une grosse qui est en train de se créer vers autour de Béziers. Il y en a plusieurs. Sinon, après, toutes les malteries, comme les brasseries, étaient dans le nord de la France. Donc, en fait, la France est le premier producteur de malt au monde et le troisième exportateur. Donc, en fait, le savoir-faire de malt de la France est quand même très connu. Par contre, aujourd'hui, c'est des très grosses malteries, comme la malterie Soufflé, sûrement la plus grosse malterie au monde. En fait, le côté malt, eh ben, on a des gros industriels comme Soufflé, mais derrière, eh ben, il manquait comme les brasseries artisanales, où dans les années 80, on était redescendu à 20 brasseries artisanales. Aujourd'hui, on est de nouveau pratiquement 3000. Les malteries industrielles, certes, sont là dans le paysage, elles arrivent à vendre, elles exportent. Mais on n'a pas de malt vraiment locaux, parce que nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est de savoir d'où vient notre céréale. Et quand on fait des lots soufflés, ils font des lots de 315 tonnes. Donc un champ dans les Hautes-Alpes qui produit 315 tonnes d'orge, j'en connais pas. et du coup, pour avoir vraiment la traçabilité de nos lots, il nous faut des plus petites malteries. Donc comme la brasserie, et bien, des plus petits outils de brassage. Et du coup, là, tout vient le sens d'une malterie artisanale. Et notamment quand il n'y en a pas en région sud, eh ben, le projet, il faut saisir l'occasion. Et le mieux, c'est de le faire en coopération. C'est un domaine que je ne connais pas forcément, puisque du coup, on a créé une SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, où dedans, il y a tous les acteurs de la filière. Ça part du paysan à la coopérative, au brasseur, au distillateur, tous les utilisateurs de malt. Et du coup, on a créé la société en octobre 2023, à 43 associés fondateurs. Donc je suis le président de la société. Il y a déjà Thomas et Mathieu, donc on est trois, on va dire, à vraiment porter le projet à bout de bras ensemble, et puis à faire tous les dossiers de financement, puisqu'on a fait énormément de dossiers de financement pour faire cet outil qui... On l'a vu un peu dans la presse dernièrement, puisqu'on a fait pas mal de remontées presse, mais c'est un projet qui va avoisiner les 6 millions d'euros d'investissement, donc c'est quand même assez énorme, puisqu'en fait, les projets aujourd'hui qu'on connaît et qui se sont cassés la figure de malterie, c'est parce que l'outil de production permettait pas de faire du bon malt. Nous, on est parti vraiment sur un outil automatique qui va permettre de faire du malt de qualité. Parce que si le brasseur a pas un malt de qualité, la bière n'est pas bonne derrière, ou la bière est trouble. Ou... Il faut une orge de qualité, il faut un malt de qualité. Il y a tellement de choses déjà On va dire, il y a tellement de variantes qui font que le malt peut être mauvais. Si en plus, on a une machine qui est hyper manuelle, et ben c'est pas possible. Et du coup, avec cette malterie, on maltera des lots de 10 tonnes. Donc, versus 315 tonnes, c'est plus facile à trouver des lots de 10 tonnes et à tracer.
Puisqu'aujourd'hui, vous avez déjà fait vous êtes dans une phase déjà d'expérimentation de ce malt. Le projet est déjà lancé.
Le projet est lancé depuis quelques années maintenant. Là, depuis du coup la création de la société, on récolte déjà les orges en région sud, notamment dans les Hautes-Alpes. Puis moi, ça fait 6 ans que je travaille avec plusieurs agriculteurs. Et en fait, ce qu'on est en train de reproduire avec la malterie, moi, je le fais déjà depuis plusieurs années, où j'achetais l'orge à des agriculteurs dans les Hautes-Alpes. Je les faisais malter dans une malterie partenaire. Du coup, en Rhône-Alpes, on a plusieurs partenariats, notamment avec la malterie Maltine Pot, qui est en Savoie. Et aujourd'hui, donc, tous les orges qu'on récolte pour, on va dire, donner un premier cran à la filière, et ben, du coup, les agriculteurs livrent l'orge aux coopératives. Les coopératives le stockent correctement, le trient, le calibrent, le livrent à la malterie Maltine Pot, qui nous le malte et qui nous le renvoie. Donc aujourd'hui, moi, depuis octobre, je suis 100% avec des maltes de la région sud. Et quasiment 80% des Hautes-Alpes, puisque le plus d'agriculteurs qui travaillent avec moi depuis 6 ans, c'est eux qui ont un peu lancé la filière, on va dire.
Donc là, ce projet d'être au maximum en local, là, il se concrétise.
Ah là, il se concrétise vraiment à fond, oui. Maintenant, il nous manque l'outil de production qui, si tout va bien, on aura le Volt de la région PACA qu'on attend le 28 juin et qui va un peu lancer tout le projet, on va dire. Un gros dossier de subvention.
Et elle va s'appeler comment, cette malterie ?
Ce sera la malterie Provence-Alpes. C'est la malterie Provence-Alpes, voilà. Et elle se fera, donc pour l'instant, on a un terrain et un constructeur qui nous construit un bâtiment à Mison. Mais on étudie aussi d'autres possibilités de terrain, puisque ça, en fait, tout va se décider dans les mois à venir.
Bien, on espère que tout va bien se passer pour la malterie. Alors, on va faire une deuxième pause musicale avec un petit air de samedi soir dans un pub anglais. Au programme, le jeune groupe Yard Act et leur titre Dream Job, un hybride de post-punk, de pop et de disco, extrait de leur deuxième album Where Is My Utopia, sorti le 1er mars 2024.
We can get down to the sound of a singular mind. And we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss,
that's boss,
pass, sweet, geese, not bad. Lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my god, it's ace! Just look at my face, I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Pass the pot because life is so neat. It can't be beat. It's geese. Slap is decent. Not bad. It's alright, yeah.
Vous écoutez Locaux du Bio, le rendez-vous des agités du local sur Fréquence Mistral. Alors, nous venons d'écouter le groupe Yard Act et leur titre Dream Job. Nous retrouvons maintenant la dernière rubrique de cette émission. Comme chaque mois, nous allons maintenant retrouver l'astuce ou la recette du mois avec Camille. Alors, que nous as-tu concocté pour cette période printanière, Camille ?
Pour ce mois-ci, il s'agit d'une recette et ce sont des boulettes gourmandes anti-gaspi pour l'apéro pour accompagner une bonne bière ou une boisson sans alcool. Alors déjà pour les ingrédients, justement, vu que c'est une recette anti-gaspi, vous pouvez réutiliser votre pain rassis et vos épluchures de courgettes. Donc, il vous faut 180 g de pain rassis, les épluchures de 4 courgettes, 10 cl de lait, du comté râpé, ça peut être aussi du gruyère ou un autre fromage, 50 g de feta, un œuf, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel et du poivre. Pour la préparation, tout d'abord, préchauffez votre four à 180 degrés, coupez le pain en dés, versez le lait dans un grand récipient, vous le salez, vous le poivrez, vous déposez les dés de pain dans le lait. Ensuite, laissez reposer de 5 à 15 minutes le pain dans le lait selon la dureté du pain. Mixez ensuite le mélange. Mélangez le comté râpé, la feta émiettée, un peu d'huile d'olive, de vinaigre et l'œuf battu. Coupez très finement vos épluchures de courgettes qui ont été lavées, ajoutez-les à la préparation. Et ensuite, avec tout ce mélange, formez des boulettes de la taille d'une petite balle, déposez-les dans un plat compatible avec le four, arrosez d'un peu d'huile d'olive, enfournez 20 minutes et c'est parti pour un super apéro gourmand et anti-gaspi.
Eh bien, ça a l'air délicieux, tout à fait en lien avec le thématique de notre émission d'aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, Camille. Alors, merci à tous les deux pour ce temps d'échange riche. Nicolas Garcien, donc cofondateur de la brasserie artisanale de Serponçon, et Camille Danel, chargée de communication à Biocop Le Grenier. Alors, on se retrouve le mois prochain pour le 6e numéro de Locaux du Bio. Quel sera le thème de cette émission, Camille ?
Eh bien, on parlera de la transformation en SCOP, ce que c'est qu'une SCOP, et quels sont les challenges de la future. Scope dans la coopérative Le Grenier.
Ils ont tout un programme. Alors ce sera la dernière édition de la saison. Donc merci de nous avoir suivis et merci à toi Camille de nous avoir accompagnés durant toute cette saison.
Merci Ingrid, merci pour l'invitation et bonne continuation.
Merci à tous les deux et bonne journée à tous nos auditeurs.